Les observations et l'analyse du vice-président agriculture et agroalimentaire à la Banque nationale l'amènent à conclure que l'économie va bien se comporter encore cette année et donc qu'il n'y a pas de récession en vue pour 2020.
La grosse question pour 2020, dans le fond, on va-t-il avoir une récession? Pour cet élément-là, je vais commencer avec ma conclusion. Nous, ce qu'on prévoit pour 2020, c'est qu'il n'y aura pas de récession encore. Donc, l'économie devrait se comporter quand même assez bien au niveau canadien, au niveau des États-Unis, puis au niveau mondial aussi, quoi. Mais il y a quand même des signes. On a un gros, gros point d'interrogation pour l'économie en 2021. D'abord, on est dans le plus long cycle à jour. Au mois de décembre, on était à 142 mois. Donc, de l'histoire moderne, depuis 1945, depuis la guerre, c'est le plus long cycle de croissance économique. Quand on regarde les phases, les cycles, hein, on a toujours un pic, on a un début de récession, ça se replace. Donc, c'est le plus long cycle. Donc, on est rendu à 140 mois et on continue à compter. Donc, c'est le plus long cycle de l'histoire. Donc, évidemment, ça peut être tentant de dire « c'est clair qu'on va avoir une récession parce qu'on a un cycle qui est très, très long ». Donc, on est à 24 mois depuis le début de la phase. La plus longue, elle a duré 72 mois, la phase mature. Une phase mature, c'est où on est là. L'économie est un petit peu plus ralentie. Les économistes ne s'entendent pas pour dire si les taux montent ou si les taux descendent. Les banques centrales des pays aussi envoient des messages divergents, etc. Fait qu'on est en plein dans ces phases-là. Fait qu'il y a de l'incertitude économique. La croissance est là. Ça va quand même pas si mal. On ne s'excite pas. L'inflation a tendance à vouloir augmenter un petit peu, mais pas parti en fou, etc. Donc, on est en plein là-dedans. Donc, la plus longue a eu lieu 72 mois, la plus courte 9 mois. Donc, à 24 mois, évidemment, c'est difficile de prédire l'avenir, mais on peut voir là, qu'on est dans une phase mature, puis éventuellement, on va arriver dans une réduction. Petite perspective sur qu'est-ce qui se passe sur le S&P 500, l'indice boursier. La bourse, les marchés, comment ils se comportent? Ils se comportent comme si on se dirige tranquillement, pas vite, dans une récession. Les profits de nos compagnies se contractent aussi. Si on regarde les compagnies mondiales de tous les pays industrialisés et des pays émergents, donc on voit clairement qu'on a une diminution, le profit s'en va en diminuant. Nos marchés émergents, c'est beaucoup plus difficile. Ils ont été encore plus affectés par les guerres tarifaires. Notre voisin du Sud, là, il aime ça mettre des tarifs. Donc, nos pays émergents ont été encore plus impactés par ça. Donc, il y a beaucoup d'indices que l'économie mondiale est relativement fragile, ça ralentit. Mais nous, on pense que ça tient. L'autre chose que je voulais vous dire, ce qui est un petit peu particulier, c'est que nos entreprises sont relativement endettées au niveau mondial, au niveau des États-Unis, mais nos ménages ne sont pas trop endettés. Fait que contrairement à d'autres crises économiques, d'autres débuts de récession, notre consommateur était plus endetté. Là, c'est nos entreprises qui sont endettées. Donc, tant que notre consommateur va tenir, nos business vont tenir. Mais c'est sûr qu'aussitôt que la consommation va diminuer, ça va être difficile pour les entreprises parce que le niveau d'endettement, il est quand même assez élevé. D'autres indices pour lesquels on croit que ça va tenir certainement en 2020. Aux États-Unis, très bas taux de chômage, vers les 3%. Le recensement américain s'en vient, font un recensement aux 5 ans. Donc, ils vont engager 500 000 personnes à temps partiel. Donc, ça va venir encore plus booster les chiffres d'emploi. Donc, ça nous donne des indices que la phase mature devrait être plus longue que courte quand on a un bas taux de chômage. L'économie un peu mondiale qui ralentit. L'indice composé demeure en croissance. La fabrication, toutes les manufactures, là, vos producteurs d'équipements et compagnies, là, c'est plus difficile. Là. Si on regarde juste le secteur manufacturier, là, le secteur manufacturier mondialement a été en récession. Il y a eu une contraction. Par contre, les services vont très bien. Notre consommateur, dans tous les pays, là, il dépense, ça va bien, le taux de chômage est bas, les salaires croissent, etc. Donc, ça va quand même assez bien là-dessus. Fait que globalement, on a une économie mondiale qui va quand même assez bien. Donc, tant que mon consommateur va tenir, l'économie va tenir.
Mais si jamais les choses se gâtaient, une récession affecterait-elle vraiment le secteur agricole?
C'est-tu bon ou pas bon, une récession pour l'agriculture? C'est intéressant de connaître dans quel environnement vos consommateurs finaux y évoluent, dans quel environnement nos gouvernements vont prendre des décisions. Évidemment, ça impacte vos entreprises, mais c'est-tu bon ou c'est-tu pas bon? Et ceux qui pensent que c'est bon pour l'agriculture? Mais vous avez raison. Effectivement, c'est quand même assez bon. On a fait des analyses il y a 2 ans par rapport aux différents produits agricoles. Quand il y a une récession, là, le pouvoir d'achat du consommateur est moins élevé. On achète moins, on consomme moins. Mais on continue de manger. On continue d'acheter du lait, on continue d'acheter la crème glacée, on continue de manger du porc, du bœuf, du volaille, on continue de manger des céréales, du pain. C'est juste où on le mange, ça va être différent. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour les restaurants, les biens de consommation un petit peu plus luxueux. Eux autres sont plus affectés. Mais nos denrées de base ne sont pas affectées par une récession. Puis qu'est-ce qui se passe quand on est en récession? Taux de chômage monte? C'est-tu bon pour l'agriculture, ça? Ben oui, c'est bon pour l'agriculture. Ça met moins de pression sur le taux de la main-d'œuvre. C'est un petit peu plus facile de recruter. Évidemment, là, il y en a qui engagent des travailleurs étrangers, mais pour les travailleurs non étrangers, c'est plus facile de recruter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le gouvernement il diminue les taux pour stimuler l'économie. Les fournisseurs, pas nécessairement agriculture, mais général, dans le fond, en construction, etc., un peu plus fin, parce que l'économie est un peu plus au ralenti. Fait qu'il faut pas trop s'inquiéter avec ça, une récession. L'agriculture est beaucoup plus stable et pas vraiment impactée par les cycles économiques. Donc, évidemment, c'est le fun d'avoir des bonnes nouvelles. Quand on dit pour l'agriculture, on dit l'économie va bien, le consommateur va opérer dans un climat qui est favorable, va avoir une bonne confiance, mais en même temps, on sait que ça l'affectera pas, notre demande. Voici quelques raisons pourquoi on pense que ça n'arrivera pas en 2020, la récession. D'abord, c'est qu'on a une politique monétaire qui n'est pas du tout restrictive. Le gouvernement, là, les gouvernements en général, ils ont deux façons d'intervenir. Donc, une politique monétaire, le taux d'intérêt, hein, on monte-tu ou on baisse le taux. Puis l'autre façon, c'est évidemment, c'est les dépenses gouvernementales. Et le taux d'intérêt réel, donc dégonfler de l'inflation. Donc, on prend notre taux d'intérêt, on enlève l'inflation. On voit qu'aux États-Unis, c'est même positif. C'est-à-dire que, par exemple, vous empruntez de l'argent aux États-Unis, puis l'inflation, moi, le taux d'intérêt, votre dette, elle va diminuer un petit peu, légèrement. Au Canada, on est presque à zéro. Donc, on a un petit gap autour d'un demi pour cent. Donc, c'est une politique monétaire qui est quand même très, très facilitante, là. Les gouvernements, en général, investissent beaucoup dans leur économie. Par rapport au taux d'intérêt, il y a un petit peu plus de 60 % des pays dans le monde actuellement que leur banque centrale, leur Banque du Canada, leur Réserve fédérale, est en politique de réduction de taux pour stimuler l'économie. Donc, au niveau mondial, on est très préoccupé par cette réduction-là, cette diminution-là. On met de l'énergie au niveau des politiques, au niveau des banques centrales à diminuer les taux. L'autre élément, c'est qu'on investit. Les gouvernements investissent dans l'économie. Regardez notre voisin du Sud, assez impressionnant. Il y a des déficits à perte de vue. Ça, c'est les programmes actuels puis les engagements couplé aux projections de croissance. Donc, on voit clairement que le gouvernement américain, là, il met de l'argent dans son économie. Donc, évidemment, ça vient donner artificiellement au marché beaucoup d'air. Un gouvernement qui diminue l'impôt de ses compagnies, qui investit, qui fait des infrastructures, ça pompe une économie qui, normalement, devrait ralentir, mais artificiellement, elle est soutenue. Donc, on peut se poser la question, ma foi du bon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir une récession? Ils vont aller jusqu'où? Parce que regardez, là, s'ils ne coupent pas d'indépenses, 2050, ils vont approcher de 10 %. 10 % de déficit de leur produit intérieur brut. C'est quelque chose d'assez élevé. Évidemment, les États-Unis ont de la capacité d'endettement. Ils ont de la capacité de faire des déficits, mais on peut quand même mettre cette stratégie-là avec un petit point d'interrogation puis en ajouter deux, trois. Au Canada, on est en excessivement meilleure position. Nos gouvernements sont beaucoup moins endettés. Puis nos niveaux de déficit, même si des fois on est critique envers nos élus fédéraux sur le niveau de déficit qu'ils font, il reste que parmi les pays industrialisés, on est le pays qui a le plus faible déficit par rapport à son produit intérieur brut. Fait qu'au Canada, si on se pose la question, là, s'il y a une récession, s'il y a de quoi majeur, on est capable d'investir, ça c'est clair.
Bien des gens voient de sombres nuages à l'horizon en rapport avec les litiges commerciaux qui perdurent entre grandes puissances et qui affectent le Canada. Ils sont nombreux aussi à craindre que des conflits politico-militaires régionaux ne dégénèrent et perturbent davantage l'économie. Patrick Lemelin se montre optimiste à cet égard. Il croit que le bon sens va l'emporter.
On pense fortement que ça va être à l'amiable. Monsieur Trump, bon, un petit peu imprévisible, mais il y a un grand désir au niveau des États-Unis de trouver un terrain d'entente. Ça fait mal à l'économie américaine. Les exportations ont diminué beaucoup cette guerre. Bien que le gouvernement a mis des mesures pour aider les entreprises, il en a mis en agriculture, hein, on a vu ça passer, puis il en a mis dans d'autres secteurs, mais ça a quand même fait mal beaucoup à l'économie parce que l'économie était quand même très structurée entre les différents pays. Puis ça, c'est clair que ça va stimuler l'économie mondiale puis l'économie des États-Unis parce que en enlevant des tarifs, évidemment, ça va relancer beaucoup les échanges. Il y a des zones où on ne reviendra pas où on était, mais ça va quand même accélérer. Si on pense à l'agriculture, par exemple, évidemment, au niveau des commodités, on devrait assister à une amélioration au niveau des commodités. Je pense à soya, je pense au blé notamment, puis particulièrement au porc, là, donc ça va enlever de la pression. Ce qui est un peu inédit dans tout ça, dans cette guerre-là, ce qui est un peu plate pour les agriculteurs canadiens, c'est que notre prix de référence pour nos denrées, c'est la bourse américaine. C'est les États-Unis qui font l'objet de sanctions. Notre marché de référence est là-bas. Ça vient impacter le marché. Et puis là, nous autres, on est impactés indirectement par ça. Parce que sur le niveau mondial, là, ils se vendaient du cochon pareil. Ils se vendaient du soya pareil. C'est juste que la Chine continuait d'acheter, mais achetait ailleurs. Il y a une chose qui est certaine par rapport à la Chine, si on pense à l'agriculture, par exemple, c'est que la Chine, notre prévision de croissance de la Chine est quand même assez forte, mais une croissance qui est différenciée. Donc, la Chine veut renaturer un peu son économie, veut diminuer beaucoup sa dépendance aux importations. Puis ça s'applique aussi en agriculture. Donc, les histoires du canola, oui, il y a des représailles, mais il y a une tendance de fond là-dedans. Et les Chinois, ils veulent s'organiser pour être moins dépendants de leurs importations de canola. Donc, il y a une tendance de fond, il y a un désir de fond en Chine d'aller chercher de l'économie.
L'année 2020 devrait donc encore en être une de croissance. Pour 2021, la perspective est un peu plus préoccupante. De nouveau, Patrick Lemelin, vice-président agriculture et agroalimentaire à la Banque nationale.
Au Canada, aux États-Unis, dans le monde, nous, on ne voit pas de récession dans nos modèles en 2020. On a un point d'interrogation en 2021. Donc, qu'est-ce que ça dit au niveau de nos prévisions? On voit la croissance mondiale continuer de se maintenir autour de 3 %, la Chine autour de 6 %. La croissance économique change un petit peu en Chine. L'industriel est un petit peu différent. On essaie de s'intégrer, de maîtriser les chaînes d'approvisionnement un petit peu plus. Par contre, ça demeure 6, ça demeure quand même une croissance très élevée. Et l'importance de la Chine dans l'économie mondiale, c'est très, très, très important, là, donc évidemment. L'économie américaine autour de 2 %, même chose pour le Canada. Les risques géopolitiques, ça demeure une source d'inquiétude importante. Comme je mentionnais, on est à des niveaux les plus hauts qu'on n'a jamais eu. Les économistes, maintenant, incluent la composante géopolitique dans leur modèle. Ça n'a jamais été fait, ça. Mais là, ils mettent une composante. What if ça arrive? Nous, ce qu'on pense, c'est que le gros bon sens va l'emporter. Au bon sens, va l'emporter, autant au niveau des guerres commerciales qu'au niveau des autres conflits. Taux d'intérêt, ce qu'on voit dans notre boule de cristal pour 2020, pas de changement, ni aux États-Unis, ni au Canada. Actuellement, au Canada, on ne voit pas de raison pour laquelle la Banque du Canada diminuerait le taux, l'économie, comme tout ce que je vous ai montré, le taux de chômage est bon, la croissance est intéressante, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pour diminuer le taux d'intérêt. Notre consommateur est en très, très bonne condition. Au Canada, on a les plus hauts taux d'épargne qu'on a jamais eu de l'histoire du Canada puis de l'histoire du Québec. Nos consommateurs, le niveau d'épargne en pourcentage de leurs revenus, là, il est à des niveaux records. Puis également, quand on se compare par rapport aux autres pays, il est à des niveaux très, très élevés. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Le bas de laine est bon. Jamais il se passe quelque chose, bien, notre consommateur, il a une certaine marge de manœuvre. On voit un dollar canadien autour de 1,25, c'est-à-dire se raffermir un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des commodités? Le baril s'améliorer un petit peu. On voit les commodités, une légère hausse dans l'année. Donc, au niveau du baril de pétrole, on voit un léger raffermissement, là, c'est dans la fourchette de 55 à 60 $ du baril, mais plus vers le haut 60. Évidemment, au niveau des commodités agricoles, on pense qu'il va y avoir un peu de raffermissement. Donc voilà pour ce qu'on a dans notre modèle cette année.
Ici Lionel Levac. L'économie tient donc bien le coup. Outre les facteurs strictement financiers et économiques, Patrick Lemelin estime que les agricultrices et agriculteurs doivent continuer d'être attentifs, même vigilants, à propos du prix des terres, de l'évolution des traités commerciaux, du bien-être animal, de l'éco-responsabilité, de la cybersécurité et du phénomène de consolidation des entreprises en agroalimentaire. Au revoir.